tous et bienvenue dans Echo, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie nationale. Le prochain salon de l'agriculture va mettre pour quelques jours l'agriculture française au cœur de l'actualité. Il sera question de sa force, mais aussi de ses fragilités à un moment où le thème de la souveraineté alimentaire est de plus en plus souvent évoqué. La France est par tradition un grand pays agricole qui exporte une partie de sa production, mais elle est aussi, on le sait moins, un important importateur, puisqu'environ un tiers de ses denrées agroalimentaires proviennent de l'étranger. Si l'agriculture est synonyme d'activité terrienne par excellence, le commerce des denrées agroalimentaires est lui très dépendant de la mer. Terre et mer sont donc en quelque sorte indissociables. C'est pour en discuter que nous recevons aujourd'hui M. Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter et chercheur associé à l'IRIS. Le Club Déméter est une association de décideurs du monde agricole, agro-industriel et agroalimentaire qui regroupe de nombreux partenaires du secteur. Ses activités sont la réflexion et l'expertise sur les grands enjeux agricoles. Parmi ceux-ci, la sécurité du commerce maritime occupe bien évidemment une place de choix. Bienvenue Sébastien Abyss, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation et ravi de faire cet échange.
Alors comme je le disais en introduction, la France est donc un grand pays agricole. À ce titre, elle exporte une part significative de sa production, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'importe pas aussi des produits agricoles. En quelques mots, comment se répartissent ses importations et ses exportations ?
Alors en effet, la France produit beaucoup en agriculture. Historiquement, sur le temps long, il faut rappeler que cette conquête productive s'est effectuée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu, après le conflit, bâtir une économie performante et rétablir les fondamentaux de la sécurité humaine. L'Europe se portait pas très bien en termes de sécurité alimentaire et le choix a été fait, dans le cadre de la construction européenne, que l'agriculture fasse partie des ciments de la construction européenne, et la France a été une des locomotives de ce développement agricole. Le résultat, c'est qu'à la fin du XXe siècle, la France est devenue une très grande nation agricole sur la planète, produisant presque anormalement, par rapport à sa taille géographique, des volumes importants et surtout de la qualité en parallèle, ce qui fait que la France occupait sur le marché mondial une position assez particulière, petit pays géographique, mais en même temps beaucoup de production agricole, de la typicité dans ces productions et de la qualité reconnue dans le monde entier. Cette agriculture française exportatrice, elle a été très forte depuis 20-30 ans sur les céréales, sur les semences, sur les produits laitiers, parfois sur quelques viandes ou animaux vifs qu'on exportait puis qui étaient transformés, abattus dans les pays importateurs. Et nous avons évidemment une production viticole et de boissons, avec parfois les spiritueux, qui ont aussi fait partie de cette panoplie de forces agricoles made in France qui trouvaient un chemin sur la scène internationale parce que des pays en avaient besoin, en achetaient et appréciaient aussi la qualité de ces productions françaises. À l'inverse, la France a des angles d'importation qui se sont accentués depuis 20 ans parce que les difficultés de produire, parfois en France, pour des raisons de coûts de travail, de fiscalité, mais également parfois par des impasses climatiques ou des impasses scientifiques, font que sur certains segments, nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis, par exemple, sur les fruits et légumes. Aujourd'hui, grosso modo, la moitié des fruits et légumes consommés en France sont importés, là où la France pourrait beaucoup plus produire et combler cette importation par des productions domestiques. Il y a de la place pour reconquérir de la production en fruits et légumes en France. Deuxième segment, qui peut sembler paradoxal, mais qui est notre première dépendance alimentaire extérieure, c'est les produits de la mer, puisqu'aujourd'hui, à peu près 90% des poissons de la mer, de l'aquaculture et de la pêche qui sont consommés en France sont importés. Parce que la pêche n'est pas à la hauteur des consommations françaises, et notre développement aquacole ne s'est pas effectué, alors qu'on aurait pu avoir une aquaculture beaucoup plus performante. Donc on a cette situation, on est exportateur dans certaines filières, on est aussi importateur de plus en plus sur d'autres filières, et donc nous ne sommes pas en insécurité alimentaire, mais il y a des produits qu'on pourrait davantage refaire en France, si encore une fois cette volonté existe de reconquérir des segments productifs.
Alors dans ces deux cas, aussi bien dans les importations que pour les exportations, en quoi la France est-elle dépendante du commerce maritime ?
Parce que le commerce maritime, en fait, au-delà de ses dimensions économiques en général, pour l'ensemble des flux, qu'on fasse de l'importation ou de l'exportation, il est souvent déterminant dans nos échanges internationaux. Sur le plan agricole, en fait, c'est très vrai. Aujourd'hui, 80% des produits agricoles et alimentaires qui se baladent sur la planète et franchissent une frontière passent par la mer. Donc cette maritimisation de la sécurité alimentaire, comme je l'ai souvent exprimé, elle a une double dimension. Il y a à la fois les produits de la mer qu'on consomme. On ne consomme pas que des produits de la terre. 20% aujourd'hui de l'alimentation mondiale vient de la pêche et de l'aquaculture. Mais nous avons aussi ces flux. Et ces flux, en fait, ils sont pour l'essentiel maritimes. Ces flux maritimes, sur le plan agricole et alimentaire, pour la France, ça veut dire que ces différentes façades sont stratégiques. Évidemment, la dimension ultramarine de la France avec nos territoires d'outre-mer est un autre atout qu'il faut aussi remettre dans cette perspective de sécurité alimentaire et de complémentarité par rapport à la logistique que ça induit. Et puis, ça pose une vraie question sur le sens géostratégique parce que ces flux doivent être garantis. Quand la France exporte des produits pour des pays importateurs qui sont des clients et partenaires de la France, ces acheteurs attendent que les produits arrivent. Arrivent dans les temps impartis, arrivent dans l'état sanitaire et de qualité nutritionnelle requis. Et nous sommes en capacité d'honorer ces engagements parce qu'il y a aussi ces accompagnements tout au long des chemins qui permettent à ces flux d'être maîtrisés. C'est vrai dans l'autre sens, quand la France importe des produits agricoles et alimentaires, les consommateurs français souhaitent qu'ils arrivent en terrain sûr d'un point de vue sanitaire. Et en même temps, nous sommes soucieux de la régularité de ces flux et de ces approvisionnements. Ça veut dire que l'interface portuaire, elle est stratégique dans les deux sens. Il y a l'Interland en France qui permet de sortir vers le chemin international. Mais cet Interland, il doit aussi fonctionner dans l'autre sens pour faire en sorte que nos villes, nos campagnes, nos zones rurales, nos grandes métropoles ne manquent jamais de nourriture. Et les Français, à l'image des consommateurs du monde entier, aujourd'hui, la tendance dominante, c'est de consommer à la fois des produits d'à côté et des produits du reste du monde.
Alors justement, dans ces flux maritimes de produits agricoles, quel point de fragilité identifiez-vous ?
Parmi les points de fragilité, on va avoir évidemment la variable climatique. Il faut bien comprendre qu'en fait, les changements climatiques qui s'accentuent, s'intensifient, sont évidemment un énorme sujet pour l'agriculture mondiale, y compris en Europe et en France. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'imprévisibilité sur les récoltes. Malgré les outils modernes, malgré nos progrès scientifiques, nous avons toujours cette difficulté de combiner correctement la variable agricole et la variable météorologique. Ça veut dire que toutes les récoltes, jusqu'au dernier moment, reste très incertaine. Ça veut dire que ces changements climatiques, à l'échelle de la France entre régions, en Europe entre les pays ou à l'échelle mondiale entre les continents les zones de la planète, ces changements climatiques accentuent les interdépendances. Il faut bien comprendre ça. Plus le temps passe, plus le changement climatique s'intensifie et accentue les interdépendances intercontinentales, finalement. Ça, c'est un point de vulnérabilité parce que ça veut dire que parfois des pays vont avoir besoin d'acheter plus. Parfois des pays vont être en capacité d'exporter davantage. Et donc ces flux ne sont pas stables. On peut avoir des années où les flux vont être très denses d'un pays à l'autre, dans une zone maritime plus qu'une autre. Ça veut dire que ces flux-là, il faut être capable d'une année sur l'autre, avoir beaucoup d'élasticité sur l'intensité stratégique qu'il faut accorder à certains espaces. Parce que, évidemment, les goulets d'étranglement ou les passages maritimes dans le monde, nous les connaissons. Il y a évidemment peut-être une sensibilité supérieure autour du détroit de Malacca ou de la mer Méditerranée, parce que autour de ces deux zones, nous avons beaucoup de transferts agricoles et alimentaires pour rapprocher l'offre et la demande. Mais d'une année sur l'autre, la cartographie des flux agricoles et alimentaires mondiaux par la mer peuvent connaître des différences parce que le climat va être une variable. La deuxième variable, c'est évidemment parce que les politiques publiques et parfois la géopolitique s'en mêlent et que si vous avez des accidents de trajectoire, de stabilité ou de sécurité dans une zone du monde, vous pouvez avoir des flux plus importants, des besoins agricoles et alimentaires supérieurs et donc l'espace maritime va s'intensifier pour répondre aux besoins d'un territoire. Puis vous pouvez aussi avoir à travers les politiques publiques des pays qui décident de protéger leur marché national, d'exporter moins parce qu'il y a besoin d'avoir une sécurité alimentaire d'abord à domicile et qui vont mettre des embargos ou des mesures protectionnistes moins exportées. Ça veut dire que parfois, des bateaux qui avaient l'habitude de prendre certains chemins, si un pays décide de fermer son commerce extérieur pendant quelques semaines ou quelques mois, bah évidemment, vous avez un ballet agro-logistique et alimentaire mondial qui se redessine. Et comme le marché a horreur du vide, on a toujours une récupération de l'équilibre offre-demande sur la planète. Sauf que, et là c'est un point de nuance très important que j'aime à souligner, c'est que ben, les récoltes agricoles, vous n'en avez pas spontanément. Et donc, quand il y a un pays qui fait défaut pour raison climatique ou géopolitique, il n'y a pas forcément un remplaçant sur la planète d'un coup qui peut se présenter et dire « moi, je prends sa place et puis venez chez moi ». Peut-être qu'il faut attendre plusieurs mois pour trouver une alternative ou plusieurs années. Et c'est tout le problème qui se joue aujourd'hui en mer Noire.
Alors, nous reviendrons plus tard justement sur la mer Noire. En attendant, je vous propose de partir dans les Outre-mer, parce que ces territoires d'Outre-mer sont aussi très dépendants, plus que la métropole d'ailleurs, des produits agricoles importés par voie maritime. Ils sont cependant aussi exportateurs pour certains produits. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de leurs spécificités ?
Ce qui est très important en fait sur cette France ultramarine, c'est qu'on s'y intéresse autrement que quand il y a des élections ou des secousses sociales. Ces territoires ultramarins, moi j'aime à rappeler d'abord qu'ils enrichissent la diversité de production agricole et alimentaire de la France avec des productions sur des territoires dont la géographie et le climat nous permettent d'enrichir la palette Made in France agricole et alimentaire, des produits qu'on ne fera jamais dans la métropole. Il faut le regarder positivement. Il y a bien sûr une dimension par produit de la mer qui est sans doute sous-exploitée. On sait qu'une partie des pêches ou de l'aquaculture demain en France passera de plus en plus par ces territoires ultramarins. Et dans les protéines que les Français cherchent autrement que par la viande, les poissons sont en caracole en tête, avant les insectes, largement. Donc si on consomme moins de viande demain, la protéine alternative, c'est la protéine par la mer, par la pêche, par l'aquaculture. Ces territoires ultramarins sont souvent insulaires et donc évidemment ont besoin de la mer et des flux logistiques pour soit transporter et expédier leur production à domicile, soit en importer. Ils ont aussi des énormes besoins d'importation agricole et alimentaire. Ce qui est intéressant depuis 2-3 ans, c'est qu'évidemment avec la pandémie de Covid et les sujets autour des souverainetés qu'on redessine, beaucoup de territoires ultramarins ont aussi souhaité renforcer leur propre souveraineté insulaire. Ce qui est très positif à mon sens parce que certains territoires avaient perdu certaines productions, se sont remis à penser certaines productions sur les différents territoires et en même temps avoir un minimum d'autonomie au cas où justement cette logistique mondiale, ces flux de longue distance étaient contraints ou plus chers ou éventuellement empêchés pour des raisons de fermeture parce qu'une pandémie paralyse le balai et le commerce mondial. Ce qui me semble aussi important, je finirai sur ce point, c'est qu'aujourd'hui nous avons presque un impensé géostratégique avec les Outre-mer et cette variable agricole et alimentaire parce que la France métropolitaine a beaucoup d'entreprises, a beaucoup de filières, a beaucoup d'ambitions parfois sur le marché mondial. Nous ne jouons pas assez sur les atouts géographiques de nos Outre-mer. Ils peuvent servir de hub logistique et de rayonnement aux productions agricoles et alimentaires de la France. Beaucoup d'entreprises françaises auraient fort à gagner, à parfois s'installer davantage dans les territoires de la France, qui sont quand même aux quatre coins du globe, et qui permettraient de penser ensuite rayonnement régional, plutôt que forcément s'installer dans un pays étranger. Et ça, il y a sans doute une réflexion à mener sur comment investir davantage dans les Outre-mer pour faire rayonner l'agriculture métropolitaine, sachant que en parallèle, nous avons besoin de faire davantage rayonner cette agriculture ou cette pêche ultramarine sur les étals et les marchés de consommation en France. Il n'y a pas que de la banane. Et en même temps, je rappelle que la banane est le fruit le plus consommé aujourd'hui en France et que c'est grâce aux bananes des Antilles que nous n'avons pas un déficit commercial sur la banane, qui est pourtant un fruit aujourd'hui qui caracole dans les consommations des ménages français.
Alors, Sébastien Bis, je vous propose de rebondir justement sur ce que vous aviez dit précédemment. Revenons en mer Noire. Parce que la crise ukrainienne a montré en 2022 la dépendance du commerce mondial des céréales aux voies maritimes. Lorsque la Russie et l'Ukraine, qui sont très importants exportateurs, ont vu leurs exportations par la mer Noire arrêtées en raison du conflit. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander quelles étaient concrètement les conséquences d'un arrêt de ces exportations. Est-ce qu'il y avait vraiment des risques pour la sécurité alimentaire dans certains pays ?
Oui, ce qui est très en fait illustratif de cette maritimisation de la sécurité alimentaire dont on a parlé, à travers le cas de ce conflit en Ukraine qui s'est intensifié depuis février 2022, c'est que d'abord nous avons l'Ukraine et la Russie sont deux superpuissances agricoles, produisent beaucoup, exportent la majorité de leurs récoltes est exportée. Dans le cas de l'Ukraine, c'est un pays qui a décuplé ses productions depuis 20 ans, produit beaucoup de céréales, maïs surtout, ensuite du blé, produit également un peu d'orge, un peu de colza, et va produire beaucoup de tournesol. Et ce tournesol, à la fois tourteau de tournesol pour l'alimentation animale, mais huile de tournesol pour les cuisines du monde entier qui cuisinent davantage à l'huile de tournesol qu'à l'huile d'olive parce qu'elle est moins chère et plus accessible. L'Ukraine, avant le conflit, réalisait la moitié de l'exportation mondiale d'huile de tournesol, réaliser 15 à 20% des exportations mondiales de maïs, réaliser 8 à 10% des exportations mondiales de blé. Donc ce pays avait une place sur l'échiquier mondial. À peu près 5% de toutes les productions agricoles et alimentaires de la planète provenaient d'Ukraine avant 2022. Donc là encore, nous avons un peu à l'image de la France, un pays qui fait à peu près la même taille en superficie agricole et superficie de la France, et qui est une grande nation agricole, mais qui exporte énormément. Et cette exportation se réalisait à plus de 95% par la mer Noire. Donc l'économie agricole ukrainienne trouvait son oxygénation par la mer Noire, et le passage, bien sûr, du Bosphore et du Dardanelles, pour ensuite aller vers les marchés méditerranéens, prendre Suez et conquérir ensuite des marchés dans l'océan Indien. Donc l'Ukraine, au fil du temps, a produit davantage, a exporté davantage, et cette maritimisation s'est renforcée. Quand le conflit éclate fin février 2022, la Russie étouffe cette économie ukrainienne par la mer Noire, et ce blocus de la mer Noire par les forces navales russes visait à affaiblir précisément l'Ukraine, son économie, et par une stratégie d'étouffement. Ce qui a provoqué, bien sûr, de la nervosité sur les marchés mondiaux des productions ukrainiennes concernées, parce que la contribution de l'Ukraine est importante et qu'encore une fois, comme je l'évoquais, sur un certain nombre de productions aujourd'hui, nous n'avons pas de remplaçants sur la planète. Donc les quelques pays qui produisent et exportent notamment des céréales, quand ils ont un problème de récolte ou un problème géopolitique, il n'y a pas de remplaçant immédiatement. Nous étions en février 2022 sur des niveaux de prix historiquement hauts parce que la pandémie depuis 2020 avait fragilisé aussi les productions agricoles mondiales. Et en fait, en février 2022, nous nous retrouvons d'un coup avec l'un des 8 grands exportateurs de céréales dans le monde qui ne peut plus exporter. Il avait commencé la moitié de sa campagne, de sa récolte 2021, de l'été 2021 à février 2022. L'Ukraine avait déjà exporté une partie de sa récolte 2021, mais sur le reste, ça a été très contrarié et compliqué. L'Ukraine a pu remettre des productions de 2021 sur le marché mondial à partir de juillet 2022.
Alors justement, vous parliez d'exportation. Un corridor céréalier a été négocié entre les deux adversaires. C'est d'ailleurs l'un des seuls domaines où les deux pays, si on peut dire, coopèrent. Pourquoi, selon vous, ont-ils accepté cet accord ?
Alors, en effet, c'est tout à fait important de rappeler que c'est le seul accord depuis un an qui lie indirectement la partie ukrainienne et russe sous égide des Nations Unies et de la Turquie. Pourquoi ces deux pays ont, sur ce volet-là, eu un intérêt différent mais convergent sur la nécessité d'avancer tant bien que mal sur cette dimension ? D'abord parce que côté russe, il y a un narratif stratégique depuis des années qui consiste à dire à une partie de la planète, l'agriculture russe, comptez sur elle, elle va produire de plus en plus, nous allons exporter de plus en plus et nous allons être le premier contributeur à la sécurité alimentaire mondiale. Narratif qui s'est intensifié depuis un an avec une petite nuance, c'est que la Russie a conditionné le maintien de flux agricoles, alimentaires et céréaliers si les pays acheteurs n'étaient pas trop critiques, voire pas du tout, par rapport à l'invasion et l'attaque en Ukraine. Et donc, quelque part, comme je le dis depuis un an, la Russie a énormément étatisé son agriculture, mais surtout l'a arsenalisée en menaçant certains pays de couper le robinet à blé, tout comme elle a coupé le robinet à gaz pour d'autres pays et d'autres besoins sur d'autres latitudes géographiques. Côté ukrainien, tout comme la Russie, l'Ukraine s'est présentée comme un champion agricole important qui avait bien sûr des intérêts pour son économie et son activité domestique. Mais l'Ukraine a toujours dit ces dernières années, nous contribuons à l'alimentation mondiale. Et d'ailleurs, on le voit, le président Zelensky, depuis un an, a longuement insisté et fréquemment insisté sur la responsabilité pour l'Ukraine de pouvoir sortir ses productions, de pouvoir produire. Et donc, dans son appel à l'aide internationale, il a souvent évoqué l'agriculture ukrainienne et les grains de l'Ukraine. Et donc, ces deux pays avaient un intérêt pour leur narratif différent à maintenir en fait des flux, à maintenir des flux. Qu'est-ce qui se passe ? La Russie a maintenu des flux. La Russie continue à exporter depuis un an. Et côté ukrainien, grâce à cet accord, l'Ukraine a pu reprendre le chemin de la mer Noire à partir de fin juillet 2022. Cet accord a été prolongé en novembre pour une nouvelle période. Cet accord, pour l'instant, est toujours en vigueur, mais prend fin au mois de mars. Donc grande question de savoir, va-t-il être prolongé ? Qui a intérêt à le prolonger ? Qui a intérêt à ne pas le prolonger ? Dans quelles conditions la Turquie va être dans les mêmes positions pour tutéliser un peu cet accord, sachant que la Turquie n'est pas dans la même situation aujourd'hui qu'il y a 6 mois, qu'il y a aussi des élections en Turquie. C'est une variable importante, me semble-t-il, puisque la Turquie contrôle quand même un peu le passage maritime entre mer Noire et Méditerranée. Et puis, je précise que l'Ukraine bénéficie en parallèle des mesures que l'Union européenne a développées, les corridors de solidarité avec l'Ukraine, par la voie terrestre. C'est-à-dire que depuis l'été 2022, l'agriculture ukrainienne, pour moitié, prend la mer Noire, pour moitié, prend les corridors terrestres que l'Union européenne a établis et qui permet aux productions ukrainiennes, par le ferroviaire, par les camions, par la voie fluviale sur le Danube, d'être exporté sur la planète à partir des plateformes logistiques, portuaires et des infrastructures européennes. Ça, je le précise d'autant plus que cette mesure-là n'est pas conditionnée par une date ou par la position russe ou de la Turquie ou des Nations Unies, et qu'il y a eu un énorme effort de la part de l'Union européenne à soutenir l'Ukraine dans cette dimension. Et aujourd'hui, l'Ukraine a autant besoin de cette voie terrestre européenne que de la voie mer Noire. Il y en a une qui est plus pérenne, parce que l'Europe, c'est solide et c'est une relation de confiance. Il y a une voie maritime qui est plus incertaine, mais qui a un avantage énorme, parce que le maritime l'emporte toujours sur cette dimension, c'est qu'elle est plus compétitive d'un point de vue économique. Donc pour un agriculteur ukrainien, prendre le chemin de la terre par l'Europe, c'est moins compétitif que la mer. Et donc il y a un vrai sujet aussi sur cette compétitivité à moyen long terme de l'agriculture ukrainienne si elle est privée de l'accès à la mer Noire.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce corridor et nous expliquer comment est-ce qu'il est organisé et est-ce qu'on peut dire au final qu'il fonctionne correctement ? A-t-il permis de résoudre la crise alimentaire ?
Ce qui est certain, c'est que cet accord sur la possibilité de reprendre le chemin de la mer Noire pour l'Ukraine et de faire en sorte évidemment qu'il n'y ait pas de contraintes non plus pour la Russie est une très bonne nouvelle pour la sécurité alimentaire mondiale. Parce que une partie de la récolte ukrainienne de 2021 a pu reprendre. L'Ukraine a fait des récoltes en 2022, certes deux fois moins importantes que l'année précédente, parce qu'évidemment ce conflit empêche les agriculteurs de travailler. Il y a bien sûr des sols et des territoires qui ont été minés, bombardés. Nous avons aussi des zones qui ont été conquises par la Russie et qui sont aujourd'hui aux mains de la Russie. Donc les récoltes depuis quelques mois de ces zones sont passées aux mains des Russes. Et donc sur le marché mondial, ce sont devenues des productions russes, valorisées par la Russie. Ça pose d'énormes défis. Ce qui est certain, c'est que nous avons eu beaucoup de difficultés sur la scène internationale en 2022 à trouver un bon compromis entre des mesures d'urgence et des équations prix. Il y a des pays importateurs qui n'ont pas eu les mêmes volumes que ce qu'ils espéraient. Ce qu'ils ont fait venir coûtait 2 à 3 fois plus cher que par le passé. Et donc dire qu'en 2022, il n'y a pas eu de crise alimentaire mondiale, c'est se tromper et regarder la situation européenne. Toute la planète n'est pas dans la situation confortable de l'Union européenne. On a une planète qui est en crise alimentaire permanente, qui paye de plus en plus cher ses importations agricoles et alimentaires, et qui évidemment parfois regarde de très près ce qui se passe en mer Noire, parce que en fait, il n'y a toujours pas de remplaçants. Il n'y a pas de nouveaux remplaçants depuis un an. L'Ukraine qui produit moins, c'est une Ukraine qui du coup exporte moins. Et si demain ce corridor mer Noire est à nouveau bloqué, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour la situation alimentaire mondiale. Et ça, on voit bien comment la Russie aujourd'hui utilise aussi cet argumentaire pour dire regardez, non seulement nous continuons à produire, à exporter, et regardez, grâce à nous, on vous permet quand même aussi que l'Ukraine ne soit pas absente du marché mondial. Donc on voit bien qu'il y a une bataille communicationnelle, évidemment, et cette bataille communicationnelle qui a une dimension diplomatique, une dimension géopolitique, c'est évident. Il ne faut pas oublier cette dimension un peu humanitaire et humaine sur lesquelles les différents acteurs jouent fortement. Quand on est en Afrique, quand on est au Moyen-Orient, quand on est en Asie du Sud-Est, où nous avons d'énormes besoins d'importation de grains et de céréales venant des quelques greniers du monde, et la mer Noire fait partie de ces grands greniers, bah évidemment, si vous voyez ni l'Australie, ni l'Argentine dans l'hémisphère sud, ni les États-Unis, le Canada ou l'Union européenne produire plus et exporter plus, bah en fait, votre seule espérance, c'est que ce qui pousse en mer Noire soit abondant et ce qui pousse en mer Noire puisse prendre la mer et conquérir les rivages un peu plus lointains que ceux du pourtour de cette seule mer Noire.
Alors, plus globalement, le changement climatique est souvent cité comme un risque majeur pour la sécurité alimentaire de nombreux pays. Dans quelle mesure le commerce maritime peut-il permettre d'en atténuer les conséquences ?
Je l'ai évoqué déjà un peu précédemment, les changements climatiques accentuent les interdépendances entre les territoires, qu'ils soient des territoires au niveau d'un pays, d'un ensemble de pays ou finalement entre les continents. Le commerce maritime, il faut bien comprendre qu'il rapproche l'offre et la demande. Et sur le plan agricole et alimentaire, pas une année se ressemble. Ça veut dire aussi que les besoins d'exportation ou d'importation d'un pays à l'autre ne sont pas identiques. Et que ces besoins par pays ne sont pas non plus identiques d'un point de vue interannuel. Il n'y a pas une saison qui se ressemble. Donc en fait, imaginez de faire une photographie simple du commerce maritime, agricole et alimentaire mondial. Non seulement selon les pays, selon les produits et selon les années, nous n'avons pas la même carte. Donc ça, il faut le tenir en tête. Ce commerce, par contre, il est indispensable. Il est indispensable. Nous avons besoin, nous, en Europe, en France, que des produits venant des quatre coins du globe puissent nous arriver, parce que les consommateurs les réclament. Et donc, nous avons besoin de l'océan qui fait le trait d'union. Et à l'inverse, nous avons des productions en Europe qui prennent le grand large par la mer pour satisfaire des besoins aux quatre coins du monde. Le climat, j'insiste sur un dernier point, c'est que ce climat n'est pas une nouveauté pour les acteurs agricoles. Par contre, plus il change, plus il rend de la nervosité sur les marchés mondiaux. Et tout le défi, en fait, aujourd'hui, c'est comment entre les aspects géopolitiques, entre des aspects de production, entre des aspects de progrès scientifique et d'innovation, et le climat, nous avons, en fait, un sujet qui est la mobilité. Le blé, le maïs, le café, le cacao, le soja, énormément de productions agricoles et alimentaires mondiales qui sont très internationalisées. Le grand défi aujourd'hui, c'est leur bonne mobilité. Ça veut dire que, par exemple, beaucoup de pays n'ont pas de stock à domicile parce qu'en fait, le stock, c'est le bateau qui arrive. C'est le nombre de bateaux qui vont arriver. Et donc, on sait que ce balai agrologistique se déploie tout au long de l'année. On fait une récolte sur quelques jours ou quelques semaines, mais le but, c'est que tout ça se déploie pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pour justement mettre en œuvre ce rapprochement de l'offre et la demande. Et cette mobilité, cette bonne mobilité, c'est le défi stratégique contemporain. Ça pose des questions logistiques, infrastructurelles, ça pose des questions, bien sûr, sur la régularité des flux et la viabilité de ces flux. Ça fait aussi une problématique de confiance des acteurs et des opérateurs. Et là, l'Europe, la France ont un avantage comparatif aujourd'hui qu'il faut aussi parfois mentionner, c'est que l'Europe et la France, quand ils s'engagent sur des contrats à fournir des clients dans le monde, ce sont des contrats en confiance, les règles sont connues, le prix est connu, la qualité, les caractéristiques des produits agricoles sont définies, tracées, transparents. Ça veut dire aussi que c'est des éléments de rassurance pour beaucoup de pays dans le monde. Et ça, c'est une valeur importante qu'il faut peut-être rappeler parce que le climat, c'est aussi une question de climat des affaires et de climat de confiance. Il y a le climat météorologique, mais je crois que sur la scène géopolitique internationale aujourd'hui, si on regarde le sujet agricole, ce climat météorologique, il est de plus en plus à relier à un climat de confiance. S'il n'y a pas de climat de confiance, il n'y a jamais de développement agricole dans un pays. Et s'il n'y a pas de climat de confiance, il n'y a pas un commerce international alimentaire qui se déploie avec beaucoup d'efficience.
Alors, en guise de conclusion, je vous propose de faire un peu de prospective, puisque c'est le rôle du Club Déméter. Comment voyez-vous dans les années à venir l'évolution du commerce maritime de céréales et des produits agricoles ?
Alors d'abord, il va falloir espérer que ceux qui produisent puissent continuer à produire autant Je ne dis pas forcément produire plus. Il y a un pays dans le monde qui veut produire plus et qui a de la marge de manœuvre, c'est la Russie, parce que la Sibérie se réchauffant permet de libérer des terres et des sols à une activité agricole, notamment en grande culture. Il y aurait éventuellement un peu le nord du Canada et de manière encore un peu plus lointaine le Groenland si on voulait faire une prospective très, très longue termiste. Ça veut dire qu'il va falloir franchir un Everest énorme dans les prochaines années. On va avoir un pic de population mondiale autour de 2050. Donc il va falloir grimper sur le toit de l'Everest en 2050 pour nourrir une population inédite, la produire sur des niveaux quantitatifs et qualitatifs absolument complexes à atteindre. Et il va falloir redescendre du toit de l'Everest, comme souvent, si on monte là-haut, l'espérance est quand même de pouvoir en redescendre. Et pour redescendre, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir trouver de l'oxygène et respirer. Donc en fait, on a un défi immense, c'est le rendez-vous de l'agriculture au cours de ce siècle, c'est qu'il va falloir produire autant ou plus dans certains pays, en le faisant nettement mieux par rapport à l'empreinte environnementale. Donc comment on produit autant ou plus, avec beaucoup moins d'impact sur les écosystèmes. Et là où le commerce maritime va rester déterminant, c'est précisément parce qu'on va dans un monde où la stabilité des productions dans les territoires n'est pas garantie, soit pour des raisons géopolitiques, soit pour des raisons de météorologie. Et entre ces deux équations, tous les pôles les plus stables, et l'Europe en fait partie, même si on est aussi confronté à des chocs qu'il ne faudrait pas sous-estimer, ces chocs doivent être contrastés à la hauteur des secousses des uns et des autres. L'Europe reste un pôle de stabilité. Aujourd'hui, une Europe qui ferait le choix de moins produire en agriculture serait sans doute une erreur géopolitique, tant pour les intérêts européens que pour les grands enjeux de solidarité avec le reste de la planète.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Imbiss, d'avoir partagé avec nous vos connaissances et votre analyse. J'invite tous nos auditeurs à découvrir votre livre. Est-ce que vous pourriez peut-être en parler un petit peu ?
Alors oui, il y a deux livres qui sortent en ce moment. « Géopolitique du blé » chez Armand Collin. Un produit vital pour la sécurité mondiale. C'est un ouvrage que j'avais publié en 2014, mais que j'ai réécrit intégralement cette année, compte tenu de l'actualité et puis des évolutions du monde. Deuxième ouvrage, Agriculture et alimentation, la durabilité à l'épreuve des faits. C'est un ouvrage que je dirige tous les gens, le Déméter, l'édition 2023, sort chez Iris Éditions. Une vingtaine de chapitres, très prospectifs, sur différents sujets, mais qui posent la question de la compatibilité entre développement durable et enjeux stratégiques. C'est pour ça qu'on l'a appelé durabilité agricole, alimentation, à l'épreuve des faits.
J'invite tous nos auditeurs qui ont été intéressés par le sujet à justement aller en apprendre plus à travers ces ouvrages. Et puis je vous remercie tous de nous avoir écoutés une fois de plus sur ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.